Alors il me couvrit de mépris et me dit qu'il me ferait suivre par quelqu'un de ses serviteurs, qui ne cesserait de me harceler et de me chagriner pendant tout le chemin. Lorsque je voulus le quitter, je sentis qu'il serrait ma chair de fort près, et en même temps il me donna un coup si affreux qu'il me sembla qu'il emportait avec lui une partie de moi-même, ce qui me fit crier « Malheureux que je suis !» Ainsi, je me mis à monter la colline. Comme j'eus fait à peu près la moitié du chemin, j'aperçus, derrière moi, quelqu'un qui venait droit vers moi. Il était aussi léger que le vent, et il m'atteignit précisément à l'endroit où est le lieu de repos. Le chrétien, c'est dans ce même endroit que je fus surpris par le sommeil et que je perdis mon mémoire. Le fidèle, cet homme ne m'eut pas plus tôt atteint qu'il me renversa par terre d'un coup de bâton et je restai comme mort. Cependant, après être un peu revenu à moi, je lui demandai pourquoi il me traitait de la sorte. Il me répondit que c'était parce que j'avais encore une secrète inclination pour le premier Adam et en même temps il me frappa d'un autre coup mortel à la poitrine, de sorte que je tombai de nouveau à la renverse et que je demeurai étendu à ses pieds, comme si j'eusse été mort. Mais ayant repris un peu de force, je m'écriai « Ayez un peu de miséricorde !»« Je ne sais, répondit-il, ce que c'est la miséricorde, et il me terrassa de rechef. » Sans doute qu'il aurait achevé de me tuer si quelqu'un ne fût survenu, qui lui commanda de me laisser. Le chrétien, qui était-ce donc que celui-là? Le fidèle, je ne le connus pas du premier abord, mais je remarquai ensuite qu'il avait les mains et le côté percés, ce qui me fit penser que c'était notre Seigneur, et ainsi j'achevai de monter la colline. Le chrétien, cet homme qui fondit ainsi sur vous, c'était Moïse. Il n'épargne personne et il ne sait ce que c'est de montrer de la compassion à ceux qui violent sa loi. Le fidèle, je le sais très bien, car ce n'était pas la première fois que je l'avais rencontré. C'est encore lui qui vint une fois chez moi, dans le temps où j'étais tranquille dans ma maison, me menaçant de brûler ma maison sur ma tête, si j'y restais encore tant soit peu de temps. Le chrétien, mais n'avez-vous pas vu au même endroit où Moïse vous rencontra la maison qui est sur le côté de la colline? Le fidèle, oui, et même avant d'y arriver j'ai aussi rencontré les lions, mais je crois qu'ils dormaient tous alors. Et comme il était environ midi et que j'avais du jour de reste, je passai outre le portier sans m'arrêter et je descendis. Le chrétien, en effet, le portier m'a dit qu'il vous avait vu passer. Je souhaiterais que vous vous fussiez arrêté dans cette maison. Vous y auriez vu plusieurs choses rares et remarquables qui seraient difficilement sorties de votre esprit pendant toute votre vie. Mais dites-moi, mon cher ami, n'avez-vous rencontré personne dans la vallée de l'humilité? Le fidèle, pardonnez-moi, je rencontrai un homme nommé mécontent qui fit des efforts pour me faire rebrousser chemin, sous prétexte qu'il n'y avait point d'honneur dans toute cette vallée et que j'offenserais extrêmement tous mes amis, l'orgueil, la fierté, la tromperie de soi-même, l'honneur mondain et plusieurs autres qu'il se vantait de connaître, particulièrement. Le chrétien, que lui répondit-vous? Le fidèle, je lui dis qu'à la vérité tous ces gens-là, qu'ils venaient de me nommer, étaient de ma parenté, puisqu'en effet ils étaient mes parents selon la chair, mais que, depuis que je m'étais mis en voyage, ils avaient renoncé à cette parenté, de même que je l'avais fait aussi de mon côté, et que je les regardais désormais comme si je ne les avais jamais connus. J'ajoutais encore ces paroles de Salomon. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Et je lui ai dit que j'aimais mieux, selon la pratique des plus sages, parvenir à la gloire par cette vallée, que de conserver cet honneur, qu'il trouvait si digne de son attachement. Là-dessus, nous nous quittâmes. Chapitre 16. Suite du récit du fidèle, la honte. Le chrétien, n'y avez-vous rencontré personne d'autre? Le fidèle, j'y rencontrai encore la honte, qui est celui de tous ceux que j'ai trouvés sur ma route à qui le nom, qu'ils portent convient le moins, car les autres souffraient encore que je leur résistasse ou que je leur répliquasse quelque chose. Mais pour cet orgueilleux visage de la honte, on ne peut rien trouver qui le réduise au silence. Le chrétien, qu'est-ce donc qu'il vous dit ? Le fidèle, il me fit mille objections contre la religion. C'était, disait-il, une chose vile et méprisable, que de se montrer si entiché de l'idée de servir Dieu, une chose indigne d'une âme éclairée, que d'avoir la conscience si délicate. C'était s'exposer à l'opprobre du monde, que de veiller si soigneusement sur ses discours et sur ses actions et de se priver de la noble liberté, dont les beaux esprits de notre temps ont accoutumé d'user. Il m'alléguait aussi qu'il y avait peu de riches, de puissants et de gens, comme il faut qu'il y entrasse dans mes sentiments et qu'ils fussent ainsi disposés à quitter tout pour un je ne sais quoi. Il parlait avec beaucoup de mépris de l'état chétif et abject de ceux qui, en leur temps, avaient été les plus fameux pèlerins, comme aussi de leur ignorance et du peu d'intelligence qu'ils ont eu dans toutes les sciences. 1 Corinthiens 1, 26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 1 Corinthiens 2, 4 Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. En un mot, il m'objecta beaucoup d'autres choses que je saurais toutes rapporter. Il disait, par exemple, que c'était une honte, lorsqu'on était à un sermon, d'y soupirer et d'y gémir, que c'était une honte de se lamenter et de pleurer dans sa maison, que c'était une honte de demander pardon à son prochain pour quelque légère offense et de lui faire restitution quand on lui avait causé quelque dommage, que c'était une honte de fréquenter des personnes de le lit du peuple, quelque honnêtes gens qu'elles fussent, de renoncer au commerce. Des grands pour quelques faiblesses, c'est le nom radouci qu'il donnait aux vices capitaux. Bref, il me tint beaucoup de discours que je ne saurais vous rapporter. Le chrétien, que lui disiez-vous là-dessus ? Le fidèle, au commencement, je ne savais presque que lui répliquer. Il me pressait si fort que j'étais prêt à me laisser gagner, et le sang me montait déjà au visage. Mais enfin je fis réflexion que tout ce qui est grand devant les hommes est une abomination devant Dieu. Luc 16, 15 Jésus leur dit vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Puis je pensais que la honte ne faisait mention que des hommes et ne disait pas un seul mot de Dieu ni de sa parole. Je me dis aussi qu'au dernier jour nous serons destinés à la vie ou à la mort, non point selon les esprits sublimes de ce monde, mais selon la sagesse et la loi du Très-Haut. C'est pourquoi je conclus qu'il était plus sûr de se conformer à la parole de Dieu qu'au jugement trompeur de tous les hommes du monde. Puis donc que Dieu élève son service au-dessus de tout, puisqu'il fait cas d'une conscience délicate, puisque ceux qui sont rendus fous pour le royaume des cieux sont les plus sages, et qu'un pauvre qui aime Jésus-Christ est plus riche que le plus grand du monde qui ne l'aime pas, arrière de moi. Mais criai-je honte, ennemi de ma félicité ? 1 Corinthiens 3, 18 Que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Quoi ? Faudrait-il que je te reçusse et que je m'arrêtasse à toi au préjudice de mon souverain ? Comment oserais-je le regarder à sa venue, si j'avais honte maintenant de ses voix et de ses serviteurs ? Marc 8, 38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Et comment pourrais-je espérer mon salut ? Mais cet homme, la honte, n'était, au fond, qu'un misérable orgueilleux, et j'eus bien de la peine à m'en défaire, car il voulait à toute force m'accompagner, me soufflant tantôt ceci, tantôt cela, et me faisant, au sujet de la piété, tantôt un reproche, tantôt un autre. Mais enfin je lui dis qu'il perdait son temps à me parler davantage, puisque c'était précisément dans ces choses qu'il méprisait si fort que je faisais consister ma plus grande gloire. Par là je fus délivré de cet hôte importun, et, après m'en être débarrassé, je m'assis et me mis à chanter. Qu'une âme qui ne soupire qu'après les solides biens ressent un cruel martyr du monde et de ses liens. Si parfois elle se flatte d'avoir surmonté la chair un nouveau danger, éclate un nouvel assaut la paire. Sa subtile tromperie, ses aiguillons, ses attraits, rendent amère la vie à tous les enfants de paix. Celui donc qui sera sage, et qui veut heureusement finir son pèlerinage, qu'il se porte vaillamment. Qu'il se prescrive une tâche, sans plus jamais se lasser. Qu'il combatte sans relâche tout ce qui peut le blesser. Que jour et nuit il se garde de ses propres mouvements, des abats de la paillarde et de ses enchantements. Car celui qui se rengage, étant sorti de ses lacs, s'expose à faire un naufrage dont il ne reviendra pas. Le chrétien, je suis ravi, mon frère, que vous ayez résisté si courageusement à ce vaurien, car on ne peut lui donner d'autre nom, et, comme vous dites, il porte un nom qui ne lui convient nullement. Il se nomme la honte, et c'est l'homme le plus effronté, qui cherche à nous couvrir de confusion devant tout le monde, et qui voudrait nous forcer à rougir de ce qui est véritablement bon, et louable en quoi il fait voir qu'il a lui-même rejeté toute pudeur. C'est pourquoi résistons-lui vigoureusement, si nous sommes sages, car il n'y a que les fous qui s'y laissent prendre. Le fidèle, je crois que contre cet ennemi, la honte, nous devons appeler à notre secours les règles, l'exemple et les promesses de celui qui est venu pour nous faire triompher sur terre dans la vérité. Le chrétien, vous dites vrai. Mais n'avez-vous point eu d'autres rencontres dans cette vallée? Le fidèle, aucune, car le soleil m'a éclairé pendant tout le chemin, et même dans la vallée de l'ombre de la mort. Le chrétien, cela a été un grand bonheur pour vous. Quant à moi, je puis bien vous dire que je n'ai pas été aussi heureux. Là-dessus, le chrétien raconta à son compagnon son combat avec le destructeur, le danger qu'il y avait couru, sa merveilleuse délivrance, et le chemin périlleux de la vallée obscure, où, ajouta-t-il, je n'ai pas vu un seul rayon de lumière, pendant presque la moitié du chemin, de sorte que deux ou trois fois je crus que j'allais périr. Mais enfin le jour parut et, le soleil étant levé, je continuai mon chemin plus à mon aise. Chapitre 17. Le chrétien de parole. Le fidèle s'étant alors tourné, vit dans quelque éloignement un homme qui se nommait le chrétien de parole. C'était un homme gros et grand, mais qui cependant paraissait beaucoup plus de loin que de près. Le fidèle s'approcha de lui et lui dit « Mon ami, venez-vous aussi à la patrie céleste ?» Le chrétien de parole, « Oui, c'est mon dessein. » Le fidèle, « Voilà qui est bien, et j'espère, si c'est là votre intention, que nous nous tiendrons bonne compagnie. » Le chrétien de parole, « Je m'en ferai un plaisir ?» Le fidèle, « Cheminons donc ensemble, et... » Pour ne pas nous ennuyer en chemin, entretenons-nous de quelques sujets édifiants. Le chrétien de parole, c'est là mon plaisir de parler de bonnes choses, soit avec vous, soit avec d'autres, et je suis ravi d'avoir trouvé un homme de votre trempe. Car, pour dire la vérité, il y en a peu qui cherchent à employer ainsi leur temps dans le voyage. Ils aiment mieux parler de choses inutiles, c'est ce que j'ai souvent remarqué avec regret. Le fidèle, cela est tout à fait déplorable, qu'y a-t-il, en effet, de plus digne de nos entretiens sur la terre que les choses qui concernent Dieu et notre bonheur céleste? Le chrétien de parole, on ne peut rien dire de mieux. Il n'y a donc rien dont on puisse s'entretenir avec plus d'agrément et d'utilité tout ensemble que de choses divines? Chacun a là de quoi satisfaire son penchant particulier, autant celui qui se plaît dans la recherche des vertus secrètes de la nature que celui qui aime les choses surnaturelles, soit qu'on veuille pénétrer dans l'avenir ou qu'on s'attache à l'histoire, car on trouve dans l'écriture les choses les plus curieuses sur toutes ces matières. Le fidèle, cela est vrai, mais il me semble que le but de notre entretien doit être l'édification et l'amendement de notre vie. Le chrétien de parole, c'est ce que je dis aussi, et c'est dans ce but qu'une conversation chrétienne est surtout utile. Un homme peut acquérir par ce moyen beaucoup de connaissances, telles que celles de la vanité des choses d'ici-bas et du prix des choses célestes. Par ce moyen encore, on apprend à comprendre l'œuvre de la régénération, l'imperfection de nos œuvres, la nécessité de la justice de Christ et autres choses semblables. Par ce moyen, on peut aussi apprendre ce que c'est se convertir, croire, prier, souffrir. on peut apprendre quelles sont les promesses et les consolations de l'Évangile capables de nous fortifier. En un mot, on peut apprendre à réfuter la fausse doctrine, à défendre la vérité et à instruire les ignorants. Le fidèle, tout cela est vrai et je me réjouis de vous entendre aussi bien parler de ces choses. Le chrétien de parole, hélas ! Le mal est qu'il y en ait, si peu qui comprennent la nécessité de la foi et de l'opération de la grâce dans l'âme pour obtenir la vie éternelle. La plupart vivent avec cette ignorance, dans les œuvres de la loi, par lesquelles néanmoins nul ne peut obtenir la vie. Le fidèle, avec votre permission, la connaissance de ces choses est un don de Dieu, et nul ne peut les acquérir par aucun effort de l'esprit humain, ni même en parler pertinemment. Le chrétien de parole, je sais tout cela très bien. Nul ne peut avoir quoi que ce soit s'il ne lui est donné d'en haut, tout est par grâce et rien par œuvre. Je pourrais bien vous citer 100 passages de l'Écriture pour prouver cette vérité. Le fidèle, quel sera donc le sujet de notre entretien à cette heure? Le chrétien de parole, ce qu'il vous plaira. Je vous parlerai des choses terrestres ou des célestes, des choses qui appartiennent à la loi ou de celles qui concernent l'Évangile, des choses passées ou de celles qui sont à venir, des choses saintes ou des profanes, des choses qui sont essentielles ou de celles qui ne sont que secondaires, en un mot, de tout ce qui nous est utile ou nécessaire. Ici, le fidèle s'arrêtait comme ravi d'admiration et, s'approchant du chrétien qui, pendant tout ce temps-là, avait marché seul sans rien dire et recueilli en lui-même, il lui dit à l'oreille « Quel excellent compagnon de voyage nous avons trouvé là ! En vérité, cet homme doit être un excellent pèlerin. » Le chrétien répondit avec un sourire modeste « Ah ! Que cet homme, en faveur de qui vous êtes, si prévenu en trompera bien d'autres avec ses beaux discours. Il faut le connaître pour ne pas s'y méprendre. » Le fidèle, le connaissez-vous bien? Le chrétien, si je le connais? Oui, vraiment, je le connais, et mieux qu'il ne se connaît lui-même. Le fidèle, dites-moi donc, je vous prie, quel est cet homme? Le chrétien, je m'étonne que vous ne le connaissiez pas, car il demeure dans notre ville, à la rue du Babil, et il est le fils du beau parleur. Chacun le connaît par son nom de chrétien de parole. Il a un langage attrayant, mais c'est un méchant garnement. Le fidèle, il paraît cependant un fort honnête homme? Le chrétien, oui, à ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne l'examinent que superficiellement semblable à ces tableaux, qui paraissent assez beaux de loin, mais qui sont fort laids quand on les regarde de près. Le fidèle, vous me feriez bientôt croire que vous raillez, et il me semble que je vous ai vu sourire. Le chrétien, bien que j'ai souri, je suis cependant très éloigné de plaisanter d'une chose de cette nature ou d'imputer faussement à cet homme la moindre chose. Mais pour vous le faire connaître plus à fond, je vous dirai que cet homme-là s'accommode de toutes les compagnies et qu'il ira s'entretenir dans tous les cabarets de la même manière qu'il vient de le faire avec vous, et plus il a du vin dans la tête, plus il est éloquent sur ces matières. La crainte de Dieu n'a aucune place dans son cœur, on n'en voit aucune trace, ni dans sa maison ni dans sa vie. Tout ce qu'il a, c'est une grande facilité à parler des choses divines. En un mot, toute sa religion se borne à du Babil. Le fidèle, s'il en est ainsi, cet homme me trompe extrêmement. Le chrétien, oui, sans doute, vous en êtes la dupe, soyez-en assuré. Souvenez-vous seulement de cette parole, il disait ne font pas. Matthieu 23, 3 faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. Et c'est autre 1 Corinthiens 4, 20 car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il parle de la prière, de la foi, de la conversion, de la régénération, mais il ne sait qu'en parler. J'ai été chez lui. J'ai beaucoup observé sa conduite, tant dans sa maison que dehors, et je sais que ce que je dis de lui est la vérité, sa maison est sans dévotion, comme le blanc d'œuf est sans goût, On n'y aperçoit ni exercice de piété, ni aucune marque de repentance. Oui, une bête brute sait Dieu à sa manière mieux que lui. Certainement, c'est une tâche et un opprobre à la religion. À cause de lui, la piété est décriée, car on juge de plusieurs autres, parce qu'on remarque dans sa conduite. Le commun peuple, qui le connaît, en fait un proverbe qui dit un diable dans sa maison, un saint dehors. Sa pauvre famille l'éprouve bien aussi, c'est un homme si dur et si chagrin, ses paroles sont si aigres et si mordantes, et il est si déraisonnable envers toute sa maison, qu'on ne sait comment s'y prendre avec lui. Il ne cherche qu'à s'élever au-dessus des autres, et à tromper tout le monde, et, qui pied, il élève ses enfants, sur ce pied et d'après ce modèle? Lorsqu'il remarque en eux quelque étincelle de bonne conscience et de sincérité en religion, il les traite de niais, de stupides et de fous, il se joue de la conscience. Je suis persuadé qu'il est une occasion de scandale et de chute à plusieurs par sa mauvaise vie, et je crains, si Dieu ne le détourne, qu'il n'en entraîne un grand nombre dans la perdition. Le fidèle, eh bien. Mon frère, je suis obligé de vous croire, non seulement parce que vous dites que vous le connaissez, mais aussi parce que vous en parlez dans l'esprit du christianisme, car je m'assure que votre cœur est plein de charité pour lui, et ce n'est que la force de la vérité qui vous oblige d'en parler de cette manière. Le chrétien, si je ne l'avais pas mieux connu que vous, j'en aurais peut-être parlé comme vous le faisiez d'abord. Si, d'un autre côté, je n'en avais de témoignage que de la part des ennemis de la piété, j'aurais regardé tout cela comme une de ces calomnies dont de pareils gens ont coutume de noircir la réputation des gens de bien, mais je puis le convaincre de tout ce que j'en dis et d'autres choses aussi condamnables. Avec cela, les gens de bien ne s'accordent point avec lui et ils en ont honte. Ils ne peuvent l'appeler ni frère ni ennemi. Lorsqu'ils l'entendent seulement nommer, ils rougissent de confusion. Le fidèle, il est vrai que parler et faire sont des choses très différentes. Désormais, je me rappellerai mieux cette distinction.